France Inter. Laetitia Gaillet. Le 6-9 de l'été.
Ah, il est là, c'est Alain Baratan. Bonjour, rebonjour Alain.
Bonjour Laetitia, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Il était une dernière fois de l'été, donc une dernière balade.
Et oui.
Vous nous proposez de découvrir les jardins d'un château.
Eh oui, celui du château de Miroménil. Il est superbe et réputé depuis toujours pour son potager. Le château de Miroménil date du 16e et 17e siècle et le potager du 18e, ou du moins les documents qui attestent de sa présence, eux, datent du 18e. Alors depuis sa création, ce potager a nourri beaucoup de monde et en particulier Guy de Maupassant. Eh oui, l'auteur de Bellamy est né dans ce château et deux salons lui sont d'ailleurs consacrés avec une présentation de documents rares, voire inédit.
Et là, comme souvent, le jardin va connaître bien des malheurs.
Oui, mais tout change positivement en 1938, quand le domaine est racheté par la famille de Voguet. Voguet ou Voguier, j'ai toujours du mal à prononcer correctement ce nom, donc je prie la famille de m'excuser. Alors la nouvelle maîtresse des lieux, Simone, se prend de passion pour le parc 14 hectares, ce n'est pas rien. Cette femme, à la main vraiment verte, va planter des centaines d'arbres et d'arbustes. Elle va recomposer les pelouses et redessiner les allées et surtout, mettre les fleurs dans le potager. Aujourd'hui, le potager fleuri du château de Miroménil est considéré, et à juste titre, comme l'un des plus beaux de France.
Et que peut-on y voir en ce moment ?
Des cascades de dahlias, des alignements de carottes et de poireaux qui prouvent, si besoin en était, que les légumes ne sont pas seulement bons, mais qu'ils peuvent aussi être beaux. Des choux magnifiques comme les choux de Saint-Saëns, ce sont des choux qui ont la particularité, adultes, de pouvoir atteindre le poids de 20 kilos. En plus, ils sont bons, mais par contre, ils avaient menacé de disparaître en 70, et je crois qu'il y a un horticulteur qui, à lui seul, a réussi à sauver l'espèce. Mais donc, le chou de Saint-Saëns, c'est l'image même, quand on pense aux enfants qui naissent dans les choux, quand on regarde le chou de Saint-Saëns, il est dedans.
Ok, il est aussi planté des fleurs que vous aimez beaucoup, les zinnias.
Eh oui, j'adore les zinnias et je ne suis pas le seul. Nathalie Romatet, la petite fille de Simone et l'actuelle propriétaire, les aime aussi. Elle en a placé partout et beaucoup dans le potager. Alors, je dis souvent que la fin de l'été est le meilleur moment pour visiter un jardin. Cela est particulièrement vrai pour le jardin de Miroménil qui, je n'exagère pas, explose de beauté en cette fin d'août. Alors, vous souhaitez bien entendu maintenant me poser la question où se trouve ce château de Miroménil ?
Où qu'il est donc ?
Eh bien, je vais donc vous répondre. Il est à Tourville-sur-Arc. C'est une ville dans le département de la Seine-Maritime. Et puis, je voudrais également profiter de ce micro pour signaler qu'aujourd'hui, sur Arte, à 13h45, il y a une nouvelle collection documentaire qui propose un regard inédit sur les jardins contemporains. Le premier épisode s'intéresse au château de Cranbourne en Australie. Son auteur, Charlotte Fauve, était venue à ce micro il y a 2 mois pour nous en parler. Il est maintenant possible d'apprécier son travail.
Merci Alain. Vous restez Alain Baratan avec nous pour répondre aux questions des auditeurs.
Et avant, je vous invite à danser.
Ah oui, vous nous invitez à danser, c'est normal. Puisque c'est Bébé sur Inter, la madrague.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés, le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Il en est tout baba, Alain Baraton.
Eh oui, j'aime beaucoup Brigitte Bardot.
1963, la Madrague.
Hein. Eh bien, oui, j'étais petit.
Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, Alain Baraton, il y a des questions d'auditeurs, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors, Isabelle pose cette question, que faire pour éviter le plus longtemps possible que mes tomates n'attrapent la maladie?
Eh oui, alors la maladie, il y a deux maladies principales, je sais que vous aimez beaucoup les tomates, donc je vais être précis, qui affectent les plantes. L'oïdium et le mildiou, ce sont des maladies cryptogamiques, donc des champignons, qui sont favorisées, voyez-vous, par la chaleur et l'humidité. Première chose à faire quand on plante des pieds de tomates, toujours respecter les distances de plantation. Et puis il y a un petit truc, je vous rappelle, Laetitia, coupez systématiquement les feuilles qui touchent la terre. Vous-même, vous me l'avez dit que vous preniez souvent froid par les pieds, c'est la même chose avec les tomates, elles peuvent prendre la maladie à cause des feuilles qui touchent le sol.
Et là, il va mourir d'étouffement.
Non, d'émotion. Deuxièmement, n'hésitez pas non plus à supprimer toutes les branches qui sont vraiment trop proches de leurs voisines. Les pieds ont besoin que l'air circule. Donc, si vous évitez à l'air de ne pas circuler, si vous coupez les petites branches qui touchent le sol, si vous arrosez de manière régulière pour éviter la maladie dite du cul noir, si vous évitez bien entendu, vous n'arrosez pas le feuillage, vous devriez, pourquoi pas, espérer récolter des tomates jusqu'à fin septembre, voire même fin octobre.
D'accord, c'est noté. Romane a cette question. Suis-je vraiment obligé d'attendre l'automne pour déplacer des arbustes?
Alors, préférable oui, parce que mais de temps en temps, un déménagement des travaux font qu'on doit précipiter le mouvement. Si on doit maintenant déplacer un arbuste, on prendra des précautions. On prépare le nouveau trou de plantation pour accueillir les végétales sans trop tarder. Un grand trou avec de la bonne terre bien fraîche et du terreau. Et surtout, on prévoit beaucoup d'eau pour arroser en abondance. Et en faisant ainsi, on a des chances effectivement de garder vivant les végétaux transplantés, mais si on peut, autant le faire à l'automne, c'est quand même préférable.
D'accord. Alors, j'ai tout compris, hein. Hippolyte, j'ai un curieux cercle noir sur ma pelouse, de quoi s'agit-il?
Croyez-vous, Laetitia, aux sorcières?
Pas du tout, mais bon, oui, c'est un
cercle noir. Il y en a dans les jardins, et voici l'une des manifestations, on l'appelle le rond de sorcière, c'est le véritable nom. Alors je vais essayer d'expliquer pour bien comprendre le mécanisme. Vous avez un champignon qui est noirâtre, qui consomme tous les éléments dont il a besoin sur place. Ce qui veut dire que quand il est mort, aucun autre champignon de la même variété, de la même espèce, pourra vivre là où il vivait. Vous me suivez?
Oui.
Ce qui veut dire que les spores, forcément, vont coloniser le terrain à l'extérieur de la zone où il a vécu. Donc forcément, petit à petit, il y a un champignon, puis la multiplication des champignons se fait autour du premier champignon, et ainsi de suite, et un cercle se crée, visible à l'œil, et on voit donc effectivement un cercle noir qui atteste de la présence de ce champignon. Ce cercle noir ne peut s'agrandir que sur l'extérieur, vu que la partie intérieure a été consommée par le champignon dont je viens de vous parler, et ce champignon, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, car il va disparaître petit à petit, tous les ans ou tous les mois plus tôt, eh bien, le cercle s'agrandit pour finalement rejoindre le voisin, l'allée, la route, et il va donc disparaître de lui-même.
Et donc, le cercle noir disparaît de lui-même, mais ça pourrit quand même toute la pelouse?
Non, ça ne pourrit pas, simplement le gazon qui pousse là où il y a le champignon est teinté de noir. Il y a les brins noirâtres, c'est pas très inesthétique, c'est pas très beau, mais c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas de quoi en faire une maladie.
Oui,
non, il se pense pas.
D'accord, ok, bon alors, Hippolyte, vous savez
mais
ce
on l'appelle vraiment
à faire.
Le rond de sorcière.
D'accord, bah, Hippolyte, vous savez qu'il n'y a en fait rien à faire.
Non, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais pourquoi acheter des produits, pourquoi dépenser du matériel, pourquoi même dépenser de la sueur pour finalement un problème qui va disparaître de lui-même.
D'accord. Claudette, à cette question, existe-t-il une méthode naturelle pour éliminer les mineuses du marronnier? Alors moi j'ai une question subsidiaire, c'est quoi les mineuses?
La mineuse du marronnier est un petit papillon originaire de Grèce et d'Albanie qui vient pondre ses chenilles ou ses larves dans les feuilles de marronnier. Les feuilles s'enroulent, sèchent, tombent, la plante s'épuise et si rien n'est fait dans quelques années, les marronniers risquent de disparaître. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement efficace, je parle pour le particulier. Quand vous avez chez vous un arbre qui fait 30 ou 40 mètres de hauteur, je vous imagine difficilement grimper à l'extrémité pour le traiter. Il existe bien des pièges à phéromones qui attirent bien les insectes en fonction de leur sexe. Eh bien, j'ai constaté cette semaine, là où je travaille, vous savez que j'ai la chance de travailler dans un grand et beau château, il y a un marronnier qui est atteint par la mineuse, qui était envahi, quand je dis envahi, c'était spectaculaire, par des centaines d'oiseaux, les centaines de mésanges. Eh bien, je me demande si les mésanges, ça y est, ne se mettraient pas à boulotter les mineuses. Alors, quand on sait que la mésange est déjà très utile contre la chenille du processionnaire du pin et du chêne, si elle se met à boulotter aujourd'hui les mineuses, il faut bénir la mésange et tout faire pour l'accueillir dans son jardin, parce que sinon je ne connais pas donc d'autres méthodes naturelles que la mésange.
Encore faut-il qu'il y ait des mésanges dans son jardin.
C'est pas ça, mais je crois que l'ONF, vous avez reçu tout à l'heure par téléphone une technicienne de l'ONF, eh bien l'ONF, je crois, commence à procéder dans certaines forêts à des lâchers de mésanges, car ils ont compris l'intérêt à préserver ce petit animal.
Et j'ai cette question de Charles. Ah, on est reparti sur le buis, hein. On a passé la tomate, on passe sur le buis. Mes buis n'ont plus une feuille. Me conseillez-vous de les arracher? Ils sont morts, là, les buis.
Alors, il y a un immense problème des buis. J'ai même peur que dans 4 ou 5 ans, on ne me parle plus du tout de buis, parce que au train où ça va, il n'y en aura peut-être plus un seul en France. Il y a des maladies qui affectent le buis, il y a les pyrales qui affectent le buis. Le mieux, je crois, on est fin août, on ne touche à rien, on laisse le buis en place, on verra au printemps, il sera toujours temps de prendre la décision.
Sûr.
Oui, non, sûr. On verra bien, mais je crois que beaucoup de végétaux peuvent subir une attaque, perdre leurs feuilles et finalement reverdir plus rapidement qu'il n'y paraît. Vous savez, le drame des végétaux, c'est qu'on ne les laisse jamais mourir de leur belle mort. Quand une plante offre une apparence pas très esthétique, on la coupe. Quand un arbre devient vieux, on le coupe. Quand un arbre devient gênant, on le coupe. Laissons peut-être de temps en temps à la nature le droit de s'exprimer et peut-être que les buis qui souffrent aujourd'hui gravement de la maladie ou de la pyrale, eh bien, sont capables de se remettre d'eux-mêmes. Laissons-leur le temps de mettre un dispositif en place.
Et ça ne peut pas se propager alors?
Alors, c'est-à-dire que la plante devient plante hôte, ça peut se propager, en particulier s'il s'agit de la maladie, le champignon, où là, effectivement, il faut mieux évacuer le végétal. Mais là, on parlait de pyrale.
Merci à la marathon de nous avoir accompagnés tout au long de cet été.
Ce fut une joie, Laetitia.
On vous retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, je serai aux côtés d'Éric Delvaux. Je retrouverai également, je crois, ma camarade de jeu.
Patricia Martin.